Il y aurait, à la suite de l'étude des différents éléments qui constituent la personne, voir comment l'ordre dans ces différents éléments font des variétés très grandes, des physionomies très grandes dans la diversité des types de personnes humaines. La nature est la même, mais cette nature s'est développée très différemment depuis le philosophe qui cherche la sagesse, le savant, l'artiste, le père de famille. C'est très varié. Et dans chacun de ces grandes orientations, il y a une diversité individuelle très forte. Alors, je souligne tout de suite les clés de ces diversités, et qui restent une diversité à l'intérieur même de la personne. Et chacun d'entre nous, nous avons une sympathie intellectuelle et affective pour un de ces types personnels. On a orienté sa vie vers tel type de personnes, sans peut-être le savoir très bien au point de départ. Il y a très peu de personnes humaines qui, tout de suite, dès leur âge de 17 ans, 18 ans, ont choisi, opté pour tel type de personne. C'est plutôt une réflexion qui se fait ensuite quand on voit la variété des personnes humaines. C'est intéressant, et ce serait très intéressant à voir, point de vue éducatif, où la personne humaine est le plus développée comme personne par rapport à la nature. La nature est la même au point de départ. Le milieu, évidemment, dans lequel nous sommes nés, est déjà très divers. Mais la nature est la même. On pourrait changer un petit enfant par un autre. Puisque cette histoire-là existe dans l'Écriture. Donc, c'est une histoire fondamentalement humaine, des jalousies maternelles, occultes, qui ne se disent pas. Et on prend l'enfant de la voisine et on met le sien à la place. Et la mère ne se trompe pas. Le père peut se tromper, mais la mère ne se trompe pas. C'est extraordinaire de voir ça, alors qu'au point de départ, c'est la même chose. Il n'y a pas une grande différence. L'individuation. Alors, je crois qu'il faut comprendre que la diversité la plus grande des personnalités, des personnes humaines, se prendra de la finalité. C'est sûr que la finalité du philosophe qui met toute sa vie au service d'une recherche de la vérité, nous donne un type d'homme, un type de personne humaine, dans lequel l'intelligence, je ne dis pas la raison, l'intelligence humaine s'est développée en profondeur ou en extension. Il y en a déjà deux types de personnes humaines très différentes. L'un cherche la vérité avant tout, et le problème de Dieu devient un problème capital, parce que mon orientation intellectuelle est toute différente si je cherche une sagesse qui me permet de découvrir l'existence de Dieu, ou si j'en fais le sacrifice en disant « Oh, c'est trop difficile. » Alors je me remets à la vie des autres, de mes confrères. Je me remets à l'opinion des hommes. Là où le suffrage universel me montre qui est premier. Cicéron a des phrases extrêmement intéressantes sur cette option, en montrant que la quantité est toujours du côté plus bas. La qualité est toujours rare. C'est un discernement philosophique très simple, mais extrêmement intéressant, et qui joue forcément, constamment, dans le développement de la personne. Sans le vouloir, sans peut-être en avoir une conscience très lucide, il y a des personnes qui se développent dans l'extension. des personnes qui se développent dans la pénétration. Et ça fait deux types de philosophies, donc de personnes humaines très différentes. Et là, la finalité est capitale. Penser comme tout le monde. Penser toujours du côté de la majorité. C'est la majorité qui m'indique mon champ de recherche. Alors que, au contraire, dans la qualité, je ne m'inquiète pas beaucoup de la quantité. C'est la vérité elle-même qui me conduit. Je me remets à ce besoin profond d'une recherche de la vérité. C'est pour vous montrer que tout de suite, même quand il s'agit d'une personnalité, d'une personne qui se développe du côté de l'intelligence, il y a là une très grande diversité. L'autre point de vue, le conditionnement corporel joue un rôle extrêmement décisif . Il ne détermine pas essentiellement la recherche de la personne, mais il la conditionne substantiellement. C'est les deux extrêmes, et entre deux, toutes les autres modalités. Alors, si vous voulez, on commence par la diversité individuelle. À l'intérieur de l'espèce humaine, il y a une division. Que je n'ai pas fait, que je subis. La différence entre l'homme et la femme, c'est la première diversité, la première différence dans l'ordre de l'acquisition de la personne. Et cette différence est commandée par le point de vue du corps, qui est un élément substantiel, accidentel, mais substantiel, c'est une chose très curieuse, pour ma vie humaine. Autrement dit, la finalité peut être la même pour l'homme et pour la femme, mais cette finalité se polarisera de deux manières très différentes. Et cette diversité de l'homme et de la femme est naturelle. Je crois qu'aujourd'hui, il faut beaucoup insister au point de vue philosophique que cette diversité et foncière. Je ne dis pas qu'elle est principale, je dis qu'elle est foncière. Elle est première et elle touche la nature. C'est donc une diversité qui va prendre dans son développement une importance très grande. Nous ne l'avons pas choisie. Elle nous est imposée. Elle nous est imposée et la culture, les habitudes, les traditions augmenteront énormément cette diversité suivant les périodes où la personne humaine se développe. Dans certaines cultures, l'homme et la femme pourront très bien, d'une façon alternative, se développer très parallèlement. Selon d'autres cultures, l'homme et la femme se développeront d'une façon très différente. Et je dois, au point de vue philosophique, comprendre ce qui est nature et ce qui est développement personnel. À partir de cette nature. Parce que, de fait, le développement personnel à partir de cette nature est très différent. Selon les cultures. Vous voyez, je dois respecter, au plan philosophique, que la personne c'est une dimension que j'acquiers. Elle est mienne. Il y a une option. Alors que la nature, j'ai pas eu de choix. La nature, je l'accepte ou au contraire, je m'oppose. Ça fait tout de suite deux différences très grandes. Celui qui s'aperçoit qu'il est un homme et non pas une femme et qui veut se développer comme homme ou comme femme. Il y a le phénomène actuel de toutes les, j'allais dire, les fins de civilisation. C'est un phénomène courant dans les fins de civilisation. C'est que l'homme a de la peine de comprendre qu'il doit se développer comme homme. Il louche toujours vers la femme. Et la femme doit se développer comme femme et non pas comme homme. Autrement dit, je crois que le critère d'une civilisation bonne, honnête, vrai, c'est la reconnaissance de la nature. Le jour où la nature n'est plus reconnue et qu'on peut passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire l'homme prendre la direction d'une femme et la femme celle de l'homme, on a une civilisation qui n'est plus entièrement vraie, parce que la nature est une donnée première. C'est ce qui m'a été donné. Je ne dis pas encore comment, mais ça m'a été donné. La famille, telle famille m'a été donnée. Et dans cette famille, j'ai reconnu que j'étais un garçon, une fille. Et mon orientation s'est faite ou en opposition ou au contraire dans le sens différent. Vous voyez, au fond, l'option fondamentale de notre vie, première, elle est là. Reconnaître la nature comme quelque chose qui m'a été donné, que je reçois et qui est déterminé en partie. Je n'ai pas de droit naturel pour changer. Je n'ai pas choisi d'être un homme ou une femme. Ça a l'air de rien, ça, mais c'est capital. C'est capital de le reconnaître. Et quelquefois, on le reconnaît que très tardivement. Et on a vécu en sept contrats, en opposition. Or, ça ne sert à rien d'être en opposition vis-à-vis de la nature. La nature est plus forte que nous, parce qu'elle est première. Elle est une donnée fondamentale que je ne peux pas transformer et négliger. Je dois au contraire la regarder comme ce qui m'est donné avec ses qualités et ses défauts, ses qualités et ses limites. Et le développement doit se faire à partir de la nature, mais dépassant la nature. À partir de la nature, je la reconnais, et dépassant la nature, parce que ma finalité, elle vient de moi. J'ai une finalité naturelle, mais ma finalité naturelle peut être dépassée. Et j'ai à ce moment-là une finalité personnelle. Et dans la finalité personnelle, je retrouve aussi bien l'homme que la femme. Certes, il y aura toujours une manière différente d'atteindre cette finalité, mais elle peut être la même. Quand je découvre que ma finalité profonde, personnelle, c'est la recherche de la vérité. Et une recherche de la vérité qui doit s'emparer de tout ce que je suis. Cette recherche de la finalité peut être la même chez l'homme et chez la femme, mais les moyens seront différents. Mais la recherche de la finalité sera la même. Vouloir que la nature modifie cette recherche ou la transforme. En ce sens, on dira, la vérité pour l'homme, la vérité pour la femme sont différentes. C'est oublier que l'esprit qui détermine ma nature a ce pouvoir de dépasser la nature. Et ce pouvoir de dépasser la nature est le même chez l'homme et chez la femme. Mais les moyens sont différents. Ils s'inscrivent dans l'individualité de la nature. Vous voyez, il y a là source constante de confusion, un manque de distinction de ce qui m'est donné par la nature et que je ne peux pas changer. Ma nature est comme ça. Je l'accepte. Je ne parle pas encore de Dieu, hein. Je l'accepte. Ma nature, elle m'était donnée par mes parents. Je l'accepte. Et mes parents me l'ont donnée sans très bien savoir ce qu'ils faisaient. C'est très mystérieux, hein. Le point de vue du développement de la personne, parce que ce développement de la personne se fait dans l'origine, dans l'obscurité. J'ai mis un certain temps avant de découvrir vraiment ce que j'étais au point de vue nature. Et comment je puis dépasser cette finalité naturelle, ou au contraire, être enfoui dans cette finalité naturelle. Il y a là un problème typiquement humain. C'est le problème de l'âme et du corps. Par mon corps, je suis dans un certain atavisme, je suis déterminé comme homme ou comme femme, c'est mon corps qui fait ça. Par mon âme spirituelle, par mon âme intellectuelle et affective, je peux dépasser la finalité propre de ma nature. Et je crois ça très important. On l'a tous fait, cette distinction, avec plus ou moins de joie ou de tristesse. On a tous fait cette distinction que ma nature ne me déterminez pas dans tout ce que je fais. Il y a une émergence de la personne qui se fait plus ou moins vite et qui me montre que ma nature, je l'accepte, je ne veux pas être en révolte contre ma nature, je l'accepte, mais je la dépasse. Et je pourrais très bien rester enfoui dans ma nature, ne pas la dépasser. Vous voyez ? Donc là, déjà, il y a quelque chose qui dépend de mon intelligence et de ma volonté. Je veux dépasser ma nature. Je veux être enfoui dans ma nature. Et ça fait, pour moi, profondément, une orientation très différente dans les relations nature-personne. Parce que je peux très bien ne pas accepter cette distinction aujourd'hui. Il y a des positions philosophiques qui font qu'on n'accepte pas cette distinction. Parce qu'on n'accepte plus la distinction corps et âme. Alors forcément, ça fait de très grosses conséquences. Donc il y a un problème nouveau au plan philosophique. La distinction de l'âme et du corps est une distinction qui n'est plus reconnue par tout le monde, par tous les philosophes. Il y a des philosophes qui prétendent que la distinction âme et corps provient d'une attitude de foi, de croyant. Donc, la distinction âme et corps dépend tout simplement si on est chrétien ou si on n'est pas chrétien. Le chrétien accepte la distinction de l'âme et du corps. Elle est donnée dans l'Écriture. Et le philosophe est libre à l'égard de ça. Et verra que l'homme est un, la femme est une. Et on ne voudra plus reconnaître la distinction nature et personne. C'est, je crois, la première distinction capitale qu'on doit accepter et reconnaître. Aujourd'hui, parce que on ne peut pas ne pas accepter qu'il y a en nous un appel naturel qui ne dépend pas de moi, l'appel naturel qui provient de mon corps. Et qu'il y a en moi un appel spirituel au-delà du point de vue sensible qui regarde ma personne. Donc, la première distinction, point de vue philosophique, sera celle-là. Et je la crois très importante. Vous voyez, et que dans une certaine philosophie qui dépend de l'expérience, comme la philosophie d'Aristote, mais différemment, parce qu'Aristote, l'expérience n'est pas l'expérimentation. Donc, il y a là, tout de suite, une distinction qui est capitale à comprendre. L'expérience, ça fait appel à mes sens. L'expérimentation fait appel à autre chose que mes sens. Ça fait appel à toute une recherche philosophique, humaine, que j'ai bien précisée et qui se fait dans telle ou telle condition. L'expérimentation présuppose justement des conditions préalables extrêmement précises, qu'il faudrait du reste toujours préciser. Cette expérimentation se fait grâce à tel ou tel instrument. Elle se fait dans telle ou telle manière. Tandis que l'expérience relève directement de ma nature. Elle est commune à tous les hommes. L'expérimentation n'est pas commune à tous les hommes. Je crois que là, tout de suite, il y a une distinction capitale à faire. Et qui est justement la distinction de l'âme et du corps. Cette distinction de l'âme et du corps et cette unité de l'âme et du corps est quand même la première donnée philosophique à laquelle je me heurte et à laquelle je dois essayer de répondre. Comment je peux distinguer l'âme et le corps? Par l'expérience, pas l'expérimentation, mais l'expérience de mes cinq sens, l'expérience de mon imagination. Découvrir ce que représentent les sensibles propres de chacun des sens. Et la réflexion philosophique à partir de cette expérience où je me pose des questions. J'essaie de découvrir. Donc, il y a une première découverte qui, je crois, est fondamentale. Tant que je ne l'ai pas découvert, il faut y revenir tout le temps pour bien voir la différence entre les deux. Entre l'expérience et l'expérimentation. Cette expérience me conduit à distinguer le corps et l'âme. Le corps, nous l'avons vu, est un élément substantiel de notre personne. L'âme est une détermination essentielle de notre personne. Il faut voir tout de suite le développement de l'âme et le développement du corps sont différents pour l'acquisition de la personne. Et c'est justement là où on pourra distinguer le point de vue de l'homme et de la femme. C'est le point de vue du corps. L'âme, je pose un point d'interrogation. En tant que philosophe, en tant que croyant, la femme et l'homme ont la même âme. Mais au plan philosophique, je ne le dis pas tout de suite. Je ne peux pas le dire tout de suite. Parce que il y a une diversité de au point de vue vie, une diversité profonde qui fait que l'homme et la femme ensemble peuvent être à l'origine d'une vie nouvelle. C'est, je crois, que tout de suite, ce problème-là est capital. L'homme et la femme. Alors, évidemment, aujourd'hui, on est devant ce problème qu'on voudrait que la fécondité puisse dépasser ce conditionnement-là. Que la fécondité pourrait se ramener uniquement à l'homme et à la femme, sans le concours des deux. Et je crois que le concours des deux, justement, pour la procréation, pour l'union sexuelle, est capital à comprendre. Parce que, à ce moment-là, la diversité de l'homme et de la femme est dépassée par une première finalité. Et cette première finalité, c'est la fécondité. C'est mettre au monde un être humain. C'est progresser dans la nature humaine. Le phénomène de la fécondité est naturel. Il doit se réaliser humainement, personnellement, mais il est fondamentalement naturel. Alors, quand je dis qu'il est fondamentalement naturel, c'est-à-dire qu'on doit le respecter comme une donnée que je reçois et que je ne modifie pas. C'est essentiel à mon corps d'être un corps d'homme ou un corps de femme. C'est essentiel. Et je le respecte comme une donnée naturelle. Une donnée naturelle que je comprends plus ou moins, mais que je peux avoir l'intelligence de cette donnée naturelle par le point de vue de la fécondité, par le point de vue de la procréation. Là, les deux sont unis dans une première finalité, qui est la finalité de la nature, qui est la finalité du vivant. Et cette finalité du vivant fait que l'homme et la femme sont un dans cette recherche de la fécondité. C'est l'œuvre des deux. Le concours de l'un et de l'autre sont essentiels. C'est la première affirmation qui, je crois, est très importante. Elle est au niveau nature. C'est tout le problème de la fécondité. Le problème de la fécondité est un problème qui est capital. La nature est capable d'engendrer une autre nature. Et c'est la nature qui est parfaite, comme dit Aristote, qui peut engendrer une autre nature. Il faut que la nature humaine soit parfaite pour être source d'un être nouveau. Et cette nature humaine est parfaite grâce à l'union de l'homme et de la femme. Cette union naturelle fait la perfection de la nature. Ma nature humaine, uniquement de l'homme, uniquement de la femme, ne sont pas parfaites au niveau nature. Elles ne sont pas parfaites. Elles s'appellent mutuellement pour former une nature parfaite capable d'engendrer. Ceci, c'est capital. Au niveau nature, et comme cette nature, nous la portons tous en nous, c'est très important de comprendre que la nature n'est parfaite que quand elle est capable d'engendrer. Cette affirmation d'Aristote qui reprend tout le temps. Et que toute seule, elle n'est pas parfaite. Elle est un élément essentiel, mais elle n'est pas parfaite. Elle est parfaite dans leur union. Et dans leur union, elle est parfaite et elle est source de vie nouvelle. C'est la nature. Et ceci est assumé par la personne. Parce que je ne suis pas uniquement une nature, je suis une nature assumée par ma personne. Et donc, l'acte de procréation est un acte humain. Il est un acte naturel, d'une nature parfaite, c'est-à-dire d'une nature unie à une autre. Mais cet acte est en même temps personnel et relève de la personne et pas uniquement de la nature. Donc, il y a l'unité entre personne et nature dans l'acte de procréation. Ce qui fait comprendre que la procréation est fin de ma nature humaine. C'est dans l'acte procréateur que la nature humaine est parfaite. elle n'est pas parfaite, séparée. Elle est toujours inquiète, comme nature. Et ma personne est liée à cette nature. C'est, je crois, ça très important de comprendre ce point de vue-là, ce point de vue philosophique. De comprendre que la nature n'est parfaite que là.